cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Bonjour, bonsoir et merci d'être à l'écoute de ce podcast, nouveau podcast de Cobuzz, podcast consacré à un sujet assez peu traité en radio généralement, et c'est pour ça que Cobuzz s'y intéresse. Il s'agit du vaste sujet des batteries fanfares. Et pour en parler, j'ai le plaisir, à ma droite, de recevoir Martine Subert, qui est la responsable d'un très très étrange label discographique, dont toutes les productions sont disponibles sur Cobuzz, et qui s'appelle Corellia. Et à ma gauche, si vous avez la stéréo, Guy Coutançon. Guy Coutançon qui est tambour-major,
qui a été
tambour-major, donc de la batterie fanfare de la police nationale. Alors, Guy Coutançon, une première question. Je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu comment je dois m'y retrouver dans toutes ces formations de musique militaire, de musique d'harmonie, et que vous me dressiez un petit peu un tableau, que vous nous rafraîchissiez un petit peu la mémoire.
Voilà, alors si vous voulez, tout d'abord, une batterie fanfare, qu'est-ce que c'est ? Une batterie fanfare, c'est un orchestre assez récent. La création en remonte environ aux années 50. Elle est composée essentiellement d'instruments d'ordonnance.
Qu'est-ce qu'un instrument d'ordonnance ?
Alors, les instruments d'ordonnance sont des instruments à son naturel, sans système. Et ce sont des instruments qui ont une histoire et une vocation essentiellement militaire. Ces instruments ont rythmé les champs de bataille, le quotidien des armées et les cours pendant
des
siècles.
Donc ce sont des instruments transportables, par définition.
Bien sûr. Alors, ils n'ont pas de système, ils sont à son naturel, et tout le monde... Alors, vous avez le clairon
pour
l'infanterie.
Pourquoi sont-ils à son naturel?
Parce qu'ils n'ont pas de système.
Oui, d'accord, mais est-ce que par volonté de simplifier les instruments...
Non, parce que dans l'histoire de la facture instrumentale, les premiers instruments n'avaient pas de piston.
Et donc ces batteries fanfares sont restées en quelque sorte fixées sur ce premier état des instruments.
Bah c'est resté une tradition, si vous voulez, pour être un peu plus précis. En 1900, je vous parlerai d'abord de la musique militaire avec toutes ces fanfares et ces batteries. Bon, on appelait batterie l'ensemble des clairons et tambours d'une musique militaire.
Bien. Le régiment.
Ensuite, on a prononcé le terme de fanfare. Qu'est-ce qu'une fanfare ? Une fanfare, c'est un ensemble d'instruments avant, plus particulièrement des cuivres, auxquels on ajoute des percussions. Alors, il y a différents types de fanfares. Vous aviez,
parce que
par
toutes
exemple,
les fanfares ne sont pas militaires.
Non. Alors, chez les militaires, vous aviez par exemple la fanfare de cavalerie, avec les trompettes en mi bémol, trompettes de cavalerie, et des timbales pour percussions. Vous aviez des fanfares dans l'infanterie. Un ensemble de tambours et de clairons, le clairon étant si bémol. Vous aviez aussi les fanfares de chasseurs. Quand je dis chasseurs, il s'agit des chasseurs alpins. Ces fanfares-là étaient dotées de corps en mi bémol, à ne pas confondre avec les trompes en ré, des fanfares de vénerie pour la chasse à cours. Donc vous aviez ces fanfares militaires, mais il y avait, sous l'appellation fanfare, vous aviez aussi de multiples formes d'orchestres rassemblant différents types d'instruments avant.
Est-ce que l'évolution donc de ces orchestres entre les formations militaires et les formations non militaires, est-ce qu'il y a eu un moment où les choses se sont séparées, ou est-ce qu'il y a une sorte de tronc commun toujours à la musique qui défile pour le 14 juillet en ville? Et
Mais si vous voulez, les formations militaires ont toujours fait école dans le milieu amateur. Il y a toujours une forme de copie, sachant que le fédéralisme étant né au 19e siècle, toutes les formes, toutes les sociétés civiles musicales amateurs étaient regroupées et encadrées dans ces fédérations.
Par des militaires.
Voilà, donc tout ça fonctionnait bien. Et pourquoi batterie fanfare ? Parce que si vous voulez, de batterie, qui était l'ensemble des tambours et clairons chez les militaires, à fanfare, on allait vite avoir batterie fanfare. Et si vous voulez, c'est dans les années 36, en 1936, à la musique de l'air, qui à l'époque était dirigée par le chef Claude Laty. Cette musique militaire, cette musique de l'air, a été la première à se doter d'une batterie composée de tambours, de clairons, de trompettes et de cors. Bien, mais il a fallu attendre l'arrivée de Jacques de Vogel en 1956, et aidé du tambour-major Robert Goutte, pour que le répertoire s'affranchisse de la tradition progressivement et s'oriente vers des styles plus modernes, des styles nouveaux, des rythmes plus modernes.
Mais qui étaient destinés à l'armée également, ou alors qui étaient plutôt pour un usage...
Si vous voulez, bon, ces instruments étaient toujours cantonnés dans la tradition. Et en les rassemblant, on a eu l'émergence d'un nouvel orchestre. Et si vous voulez, à partir de là, un tournant s'est opéré dans les années 50. Et on a vu un répertoire extraordinaire de richesse et de diversité qui n'a cessé d'évoluer durant ces 60 dernières années, avec de nombreux compositeurs qui nous ont donné des centaines de pièces, de styles et de difficultés très différentes. Et si vous voulez, cette musique de l'air, cette batterie fanfare, ce nouvel orchestre, spécificité française, qui s'est créé sur cette base d'instruments d'ordonnance, auxquels on a ajouté après des percussions, et puis quand même, il faut le dire, les contrebasses et basses à système, à piston, qui sont les seuls instruments à système de cette batterie fanfare. Voilà, les seuls instruments tolérés. Bon, on verra qu'après, il y a eu des petites variantes, parce que sur toute l'évolution du répertoire, il y a eu des instruments invités. On a pu avoir batterie fanfare et violoncelle et accordéon et trompette et quatuor et guitare basse, etc. Donc, oui.
Je vous propose qu'on fasse une pause en écoutant un deuxième extrait musical et nous continuons notre conversation sur les batteries fanfare passionnantes. On va apprendre énormément de choses au cours de cette rencontre.
Thank you.
Nous écoutions donc Les Tatars de Roger Fayol, interprété par la batterie fanfare.
De la musique de l'air.
Non, de la police nationale. De la police nationale. Nous avons dit qu'on l'a écouté par la police nationale. Voilà. Alors, Martin Zuber, quelle drôle d'idée d'avoir repris cette maison de disques Corellia, qui est une maison que je connaissais comme ça depuis pas mal d'années, en effet, pour avoir repéré avec ses répertoires tout à fait étranges. Comment ça s'est passé? Et quelle est l'histoire derrière Corellia?
Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une rencontre, toujours. Hein. J'étais à un concert à côté de Madame Egermont, qui avait cette maison, qui disait qu'elle voulait vendre sa maison parce qu'elle partait à la retraite. Et elle m'a donné son catalogue. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout, moi, cette maison. Et c'est vrai que moi, je suis d'origine alsacienne, donc j'ai toujours été assez passionnée par les cuivres, cet univers-là. Donc, c'est vrai que le catalogue m'a vraiment bluffée, parce que je trouvais ça impressionnant. Donc, il y avait... du cuivre, alors notamment aussi de la musique militaire, mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi. On l'a racheté et on l'a appelé le label des vents, parce que l'objectif c'est vraiment de faire la part belle à tout ce qui est vent, donc cuivre, bois. Et donc dans ce répertoire, on a batterie fanfare, orchestre d'harmonie et des solistes vent et bois. Voilà.
D'accord. Et alors, quelle est la part de la tradition de votre catalogue, c'est-à-dire ce que vous avez repris et la manière dont aujourd'hui on peut produire donc des albums de batterie fanfare et de vent et d'orchestre d'harmonie?
Alors, il faut commencer quand même...
C'est un monde très particulier.
Non, c'est un monde très particulier, mais c'est un monde... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, enfin, il faut enlever quand même quelques préjugés, parce qu'en France, il n'y a pas d'orchestre d'harmonie professionnel hors formation militaire. Il y a des orchestres symphoniques professionnels, mais les orchestres d'harmonie civile, il n'y en a pas.
À l'étranger, il y en a beaucoup plus ?
Oui, je pense qu'il y en a plus. Je suis pas sûre. Je pense qu'aux Pays-Bas ou en Suisse, ce n'est pas forcément des formations militaires.
Excusez-moi, Martine, mais il y a beaucoup d'orchestres d'harmonie dans le milieu civil ?
Oui, mais amateur. Là, je parlais professionnel. Dans le milieu amateur, il y en a énormément. Oui. Mais professionnellement... les seules formations professionnelles sont des formations militaires.
Ah oui, d'accord.
Voilà,
oui,
et qui sont d'un très haut niveau, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même tous les musiciens qui sortent des conservatoires nationaux, une des débouchées, c'est ces orchestres-là. Hein, c'est ces orchestres, parce qu'il y a
quelle que soit leur passion par ailleurs pour la chose militaire.
Donc, les orchestres militaires, il y en a plusieurs encore, même s'ils sont en train, si certains sont menacés, qu'il y a eu des regroupements et qu'il y a même eu des suppressions d'orchestres.
Ah oui, quels sont les orchestres qui ont été supprimés?
Alors, il y en a.
C'est le ministre des Armées comme ça qui décide de s'en prendre à la musique?
Oui, mais il y a eu, tout est différent parce qu'il y a encore 20 ans, dans si toutes les voulez, régions, il y avait des orchestres.
On pourrait dire que la première chose qui a fait du mal à ce domaine musical, c'est la suppression du service national. Parce qu'à l'époque, les musiques militaires avaient une part de professionnel, mais une part d'appelés. Et c'était un tremplin extraordinaire pour tous les musiciens amateurs qui pouvaient faire leur service militaire dans une musique, parce qu'ils allaient se perfectionner. Il y avait beaucoup de musique qui était semi-professionnelle, puisqu'il y avait une part de professionnel et une part d'appelés, du contingent. Donc ces musiciens qui venaient du tissu musical amateur avaient la chance de pouvoir faire leur service militaire dans ces musiques. Et ils se perfectionnaient, ils pouvaient aller au conservatoire. Ensuite, ça pouvait être soit un tremplin pour faire carrière, soit quand ils retournaient dans leur vie civile, ils apportaient un savoir supplémentaire à leur formation d'origine, leur petite formation musicale amateur. Donc la suppression du service national a fait du mal à ce niveau-là, dans le domaine musical, sur le tissu musical amateur. Ensuite, les réformes se sont succédées, puisqu'on a été vraiment vers une professionnalisation des armées, et donc une professionnalisation de toutes ces musiques militaires, avec, comme dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, avec des restructurations, des fermetures de formation, des réductions d'effectifs. Voilà. Donc aujourd'hui, le milieu des formations musicales à caractère militaire est toujours en pleine restructuration. Le nombre d'orchestres a été réduit et les effectifs également. Voilà. Mais c'est vrai que toutes ces formations musicales, ces orchestres professionnels, sont importants pour tous les élèves qui sortent des conservatoires.
Mmh. somme, Martine, les musiques et le label que vous dirigez et les musiques dans lesquelles il s'illustre, et on en parlera tout à l'heure avec ces pièces de concours que les étudiants peuvent télécharger sur le site et jouer et s'en servir comme de playback. Il y a une grande dimension éducative. En fin de compte, j'imagine que, par exemple, dans les fanfares municipales également, c'est une forme de socialisation comme ça, n'est-ce pas?
Oui, alors justement, voilà, j'en viendrai aux fédérations dont je parlais tout à l'heure. Toutes ces batteries fanfares sont regroupées dans des fédérations qui sont là pour les encadrer. Alors, nous avons la FSCF, Fédération sportive et culturelle de France, l'UFF, Union des fanfares de France, et plus récemment, puisque c'est une toute nouvelle confédération qui s'est créée en 1980, la CFBF, Confédération française des batteries fanfares. Alors, elles ont toutes plus
et
ou moins...
Et vous oubliez la Confédération musicale de France aussi.
Oui, mais...
La CMF.
C'est vrai.
La confédération opère aussi pas voilà. mal dans la promotion des orchestres d'harmonie et batteries fanfares.
Voilà, mais voilà, je l'ai oubliée naturellement parce qu'elle est moins concernée par les batteries fanfares. Et donc, si on cite... Je disais qu'elles ont toutes plus ou moins les mêmes objectifs d'encadrer toutes ces formations amateurs et de les faire évoluer et progresser. Et si on cite, par exemple, la dernière, la plus récente, la CFBF, elle le formule ainsi, pour le développement et le progrès technique des formations musicales populaires. Donc, si vous voulez, dans ces fédérations, il y a des conseils d'administration et tout un tas de commissions, et notamment des commissions musicales ou comités techniques, qui sont encadrés par des musiciens, souvent des musiciens professionnels, et donc ils mettent au point des plans de formation destinés à toutes ces formations amateurs adhérentes. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'il y a des examens, et des examens individuels. Et pour la CFBF, il y a eu une commande de partition de toute une série d'examens individuels pour tous les instruments et tous les niveaux à un compositeur qui s'appelle Alexandre Komiski.
Kosmiki,
excusez-moi, en partenariat avec les éditions Corellia. Et là, Martine va pouvoir en parler plus facilement que moi.
Alors, quand on pense à ces ensembles donc, de fanfares municipales, amateurs, est-ce qu'il y a des régions de France où elles sont davantage développées et pour quelles raisons, en fin de compte, historiques?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une prédominance un petit peu, enfin il y a des tissus, alors il y a l'Alsace évidemment, hein, où je crois qu'il y a d'ailleurs le taux de pratique musicale qui est le plus fort de France. Donc là, il y a une tradition très importante. Le Nord, évidemment, hein, avec tout le tissu des harmonies du Nord qui est très fort. Et le Centre et aussi Pays Basque.
Hein. Oui.
Donc il y a vraiment des traditions. Enfin,
oui, mais Rhône-Alpes aussi.
Est-ce qu'il y a des répertoires, je dirais, locaux, d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des sortes d'adaptation des répertoires?
Non, pas vraiment. Alors justement, l'intérêt de la batterie fanfare, je le répète, c'est un orchestre. Un orchestre peut aborder tous les styles de musique. Donc elle a un répertoire sur une soixantaine d'années d'une richesse extraordinaire qui aborde vraiment tous les styles de musique. Et comme je le disais, les formations professionnelles font école et jouent un rôle, une mission pédagogique en direction du monde amateur. Donc les formations professionnelles font des créations, des enregistrements. Et si vous voulez, les amateurs s'inspirent de tout ça. Donc après, ils puisent le répertoire en fonction de leur niveau, de la difficulté ou de leur sensibilité propre. Hein. Donc,
oui, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu plusieurs enregistrements, notamment avec votre orchestre, hein, avec la police nationale. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette espèce d'objectif de... Bon, Corellia, il y a aussi une maison d'édition dans le milieu des batteries fanfares. Hein, Et donc évidemment l'objectif c'est de faire enregistrer pour la promotion des œuvres et les professionnels ont un rôle très important à l'égard du monde amateur.
Voilà. Et moi j'ai eu la chance de diriger une formation professionnelle, d'écrire
de très haut niveau,
d'écrire des pièces, de pouvoir les faire jouer, de pouvoir les enregistrer. Comme j'ai participé aussi à l'activité des confédérations, je me sentais investi de cette mission pédagogique envers les amateurs. Donc, si vous voulez, je me situais vraiment sur les deux niveaux. Je comprenais qu'avec mon orchestre, c'était une chance de pouvoir contribuer à cette évolution du répertoire. Donc, contacter des compositeurs parfois totalement extérieur au milieu, qui découvrait des gens que je peux citer comme Marc Stecker, Migonissime, Xavier Lemann, Didier Havet, Désiré Dandenne et autres, qui ont toujours été assez séduits par ces instruments, la richesse des timbres de ces instruments, des sonorités naturelles, vous voyez, et le challenge que ça présentait pour être créatif, essayer de mettre en valeur cet orchestre. Donc,
mais juste avec une écriture très difficile, hein, parce qu'il y a peu de notes pour les instruments d'ordonnance. Donc c'est vrai que pour le compositeur, c'est aussi un exercice.
Voilà, c'est un exercice technique et un exercice d'écriture périlleux. Parce qu'évidemment, ces instruments ne disposent pas de toutes les notes, puisqu'ils n'ont pas de système. Donc c'est surtout un travail avec les lèvres et l'air. Voilà, mais en tout cas, ils ont une couleur.
Pour un compositeur, c'est donc une sorte d'exercice d'école,
voilà,
de s'adapter à ces orchestres-là.
Et en ce domaine, si vous voulez, comme je vous ai dit, tout s'est fait, de l'imitation à l'arrangement dans tous les styles, etc. Mais il est certain que pour valoriser la batterie fanfare sur le plan musical, le plus important, c'est certainement la création, c'est-à-dire pas vouloir copier un orchestre de jazz, un orchestre afro-cubain.
Ne pas faire des arrangements de pièces existantes, etc.
Plus ou moins bien réussis, bon, etc.
Une question comme ça en passant, vous allez me dire. Les batteries fanfares, l'armée, quand ils jouent de la musique de compositeurs vivants, payent la SACEM normalement? Ou alors est-ce qu'il y a des choses particulières?
Oui, alors juste un petit mot par rapport à ça, parce que ça dépend. Les formations militaires sont invitées par des organisateurs, hein, en règle générale. C'est pas... Ou bien ils sont en mission officielle, ça veut dire qu'ils font, par exemple, quand ils sont à l'Étoile, devant l'Arc de Triomphe, quand ils font les sonneries ou quand ils font les réglementaires, ben là c'est du domaine public évidemment. Et quand c'est des pièces dans le domaine public, ils vont faire des concerts parce que c'est où un truc municipal qui l'organise. Et là évidemment, c'est l'organisateur qui déclare les pièces à la SACEM.
Guy Goutançon, je voudrais profiter de votre présence pour satisfaire toute ma curiosité, mais peut-être vous vouliez dire quelque chose. Je voulais vous poser une question par rapport donc aux grands orchestres d'harmonie maintenant. Ce sont finalement des formations de prestige.
Tout à fait, oui.
Entretenues, je dirais, par l'État pour le prestige. Hein ? Et ce sont des orchestres d'harmonie donc sans cordes.
Il y a quand même des contrebasses à cordes.
Oui. Et quelle est un petit peu leur histoire en fin de compte ?
Écoutez, l'histoire des orchestres d'harmonie, c'est un petit peu tout l'historique de la musique militaire et de tous ces instruments. Mais là, ça serait très long d'en parler, depuis l'olifant ou depuis les trompettes de Géricault, en passant par Adolphe Sax, etc. C'est très, très compliqué. En tout cas, la musique militaire française, c'est vraiment une tradition, un patrimoine. Le grand orchestre d'harmonie à la française, tel qu'on le connaît, cette batterie fanfare à côté... Qui participait pour tout ce qui est de la tradition et du cérémonial avec les sonneries réglementaires. Tout le monde a entendu des sonneries de clairon dans les casernes ou une cérémonie au monument aux morts. Et donc ça, c'est une tradition bien française et c'est notre patrimoine.
Voilà.
Ces grands orchestres, ces grandes formations professionnelles donc, maintiennent cette tradition et ce patrimoine. Et ces instruments, je dirais, du protocole que sont le clairon, la trompette et le cor, ont eu la chance, donc, en France, de pouvoir prendre une autre orientation, constituer un orchestre, un nouvel orchestre, pour avoir des activités beaucoup plus artistiques, si je puis dire. Et c'est vraiment une spécificité française, parce que la batterie fanfare, vraiment, telle qu'elle est constituée, celle dont je vous parle, n'existe qu'en France.
Elle ne s'exporte pas.
Voilà, elle ne s'exporte pas, parce que, vous voyez, dans les autres pays, ces instruments-là ont eu plus ou moins la même histoire.
Sauf la musique.
Et ils sont restés cantonnés, je dirais même... prisonniers de leur tradition, de leur histoire militaire et cantonnés dans une vocation militaire.
À la caserne.
Voilà, il n'y a qu'en France qu'on a su vraiment...
Sortir.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on en a pour autant abandonné la tradition, mais ces instruments-là, aujourd'hui, non seulement ils peuvent toujours être placés sur la tradition et le cérémonial, qu'on respecte au plus haut point. Vous avez notamment le tambour. Il faut savoir quand même qu'en France, on a une école française du tambour extraordinaire qui nous est enviée dans le monde entier. Donc cette école est préservée. Mais ces musiciens tambours qui, à l'origine, appartenaient à cette batterie de musique militaire constituée des tambours et des clairons, ils ont évolué aujourd'hui vers les percussions. Et aujourd'hui, nous avons des tambours d'une qualification extraordinaire, mais qui sont aussi polyvalents sur toutes les percussions. Parce que la batterie fanfare, je vous disais qu'elle s'est donc créée dans les années 50. Mais ensuite, elle a évolué dans son instrumentation par rapport aux percussions. Au départ, on avait une caisse claire ou un tambour avec une grosse caisse et une paire de cymbales. Ensuite, on s'est élargi à tout l'éventail de toutes les percussions possibles.
D'ailleurs, il y a les tambours de la garde républicaine, hein, qui sont une formation à part entière.
Y a-t-il une compétition, un antagonisme entre les orchestres d'harmonie assis et les batteries fanfares
Alors, la batterie fanfare étant... Ben, je dirais que la batterie fanfare étant un orchestre, elle peut se produire debout et assis. Elle peut faire de la musique du cérémonial, bon, bien sûr, dans un certain cadre, avec l'ambiance adéquate et les partitions, les sonneries réglementaires, la Marseillaise avec l'orchestre d'harmonie. Mais elle peut jouer assis, en concert. En fait, ce sont deux orchestres distincts. Et si on prend les formations militaires professionnelles, elles se produisent ensemble pour tout ce qui est de l'ordre du protocole et du cérémonial. Mais après, elles peuvent être autonomes et indépendantes
et
pour ce qui est du concert.
Certains musiciens participent des deux univers ?
Non, en principe, ces formations-là, chaque musicien est recruté à un poste. Hein. Le clarinettiste...
Enfin, il y a un répertoire spécifique, notamment militaire, hein, où il y a l'orchestre d'harmonie, mais qui a besoin d'instruments à son naturel.
Oui, c'est ce que je dis. Ils travaillent ensemble pour tout ce qui est du domaine du protocole, du cérémonial, des marches militaires.
Hein, voilà. Là, il y a des
Et par contre, ils sont indépendants sur le côté la musique, on va dire, un peu plus artistique,
qui il y a des grands compositeurs du concert. Qui ont composé des choses merveilleuses. En particulier, je me souviens de ce disque de musique de Darius Milhaud, qui avait été fait justement par l'orchestre de l'armée de l'air.
Il y a Florent Schmitt aussi.
Dirigé par De Vogel, et voilà, qui était vraiment un disque absolument splendide.
Mmh. Alors De Vogel, vous citez De Vogel, bon, quelque part, il est le fondateur, on pourrait dire, hein, ou le membre fondateur avec Robert Gut de la première batterie fanfare, parce que même si c'est en 1936 sous Claude Latic, ces instruments ont été rassemblés, ils ont vraiment pris la configuration d'orchestre avec toute cette évolution à partir de Vogel. Et de Vogel, qui était quelqu'un d'extraordinaire, a écrit des centaines d'œuvres. Alors ensuite, on a eu les premiers compositeurs vraiment qui ont apporté une contribution énorme, sont donc de Vogel, Gut, Luyparts, Fayol, Delbecq. Et ensuite, si vous voulez, donc à l'époque, on avait vraiment des compositeurs de métier. Hein. Ensuite, ça s'est un petit peu démocratisé. Hein. Il y a des gens qui se sont mis à écrire un petit peu partout, de tous horizons, toute origine. Et lorsque sont apparues les nouvelles technologies et l'informatique, bon, là, c'est vrai qu'avec l'aide des logiciels, etc., bon...
Alors on en vient justement à cette collection donc de pièces de concours, n'est-ce pas, créée à l'initiative de la CFBF, c'est-à-dire la Confédération française des batteries fanfares. Vous voyez que je commence à m'y connaître. Et donc cette série de pièces qu'on va trouver donc sur le site, en fin de compte, c'est une série de pièces de playback qui permettent au jeune instrumentiste de préparer son concours en ayant un accompagnement, c'est cela, Martine ?
Oui, c'est bien ça. Alors, l'objet de la commande de la CFBF, hein, c'est de remonter aussi la qualité un petit peu de ces pièces, pour que les gamins puissent travailler un petit peu ces pièces-là. Donc, avec un accompagnement piano, hein, et de qualité. Donc, la CFBF a demandé à Alexandre Kousmiki, qui a fait le conservatoire supérieur, qui aujourd'hui est chef adjoint à la flotte de Brest, donc dans un orchestre de formation militaire, d'écrire justement des pièces un peu originales pour promouvoir un peu ce répertoire et pour montrer un petit peu toutes les possibilités de ces instruments d'ordonnance. Hein. Donc là, il y a 40 pièces, il a écrit 40 pièces pour 4 instruments différents, donc le clairon, la trompette, le saxophone et le cor, et avec les accompagnements au piano. Donc nous avons enregistré ces pièces. Et nous avons fait une distribution exclusive sur Qobuz, hein, notamment pour garantir,
un bon choix, voilà,
notamment pour garantir le prix, hein, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les plateformes de téléchargement, il y a toujours la maîtrise du prix qui est un peu désastreuse pour un producteur. Quand on sait le coût d'un enregistrement et la capacité de rentabiliser un enregistrement à 0,98 centimes, c'est pas possible. Donc, nos pièces sont relativement chères, hein, par rapport à ce qu'on pourrait trouver, mais c'est le prix de la musique, voilà, tout simplement. Hein, ça a été fait par un pianiste professionnel, dans des conditions professionnelles, donc, et c'est un prof de piano à la maison, hein, pour travailler ses pièces.
Thank you.
Et donc, il y a combien de pièces?
Alors, il y en a 40. Il y a 40 pièces. Donc, il y a 10 pièces par instrument, par niveau. Enfin, il y a 10 niveaux, hein, pour, 10 niveaux. Pour les concours. Voilà.
Et vous, Martine, depuis que vous êtes en charge de Corélier, que donc vous consacrez votre vie aux batteries fanfares, aux orchestres d'harmonie, est-ce qu'il vous est venu l'envie de toucher, qui sait, à la trompette, au tuba, au corps? Alors, au tambour, peut-être?
Non.
En quelque sorte, on pourrait dire qu'elle les touche, voilà, qu'elle les touche tous actuellement.
Je les touche en permanence, mais non, j'ai pas, je crois qu'on peut tout faire. Je n'ai pas commencé à me mettre à la... En plus, c'est extrêmement difficile, parce que c'est un travail de... Enfin, je n'ai pas le temps.
Et vous, Guy, vous aviez un instrument
Alors moi, j'ai commencé tout jeune, dans une petite batterie fanfare. Et je dois beaucoup, énormément à la première personne qui m'a mis un clairon dans les mains à l'âge de 7 ans, parce que quelque part, ce simple geste a entraîné toute une destinée. Donc justement, je dois beaucoup durant ma jeunesse à ces confédérations musicales. À l'époque, c'était notre batterie fanfare, était adhérente à la FSCF. Nous avions déjà quelques cadres compétents dans notre association. Qui nous formait déjà à la théorie musicale, au solfège et à la pratique instrumentale. Mais grâce à ces plans de formation musicale des fédérations, on a pu suivre des stages et se former, je dirais, dans un système indépendamment du cursus officiel conservatoire école de musique.
J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des passerelles maintenant?
Oui, de plus en plus. Voilà. Oui, de plus en plus, les barrières sont tombées. Je crois que les uns ont été vers les autres. Bon, nous, évidemment, nous étions à fond dans la pratique collective. Bon, parfois, certains organismes institutionnels étaient un peu plus fermés. Mais on s'est vite aperçu que de former une élite qui joue des concertos dans leur salle de bain et qui ne font pas de pratique collective, ça ne mène pas à grand-chose. Bon, les mentalités ont changé, les barrières sont tombées, les uns ont été vers les autres et vice-versa. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des écoles de musique. Il y en a de nombreuses où tout fonctionne bien, c'est-à-dire que vous avez un directeur qui n'est pas fermé. Hein, qui ne voit pas certains instruments de façon péjorative, qui a compris que ce n'est pas l'instrument qui fait le musicien, mais qu'on peut faire de la musique sur un clairon et pas forcément en faire sur un violon, même si l'instrument est noble, vous voyez ce que je veux dire. Donc des gens qui ne sont pas fermés, on voit certaines écoles de musique et conservatoires qui ont des classes ouvertes aux instruments à son naturel, ces fameux instruments d'ordonnance. On voit certaines villes comme Fougères, Condon d'Auvergne, Villers-Cotterêts, pour n'en citer que quelques-unes, où au sein de ces établissements-là, vous avez donc la formation qui est dispensée dans tout ce type d'organisme. Mais il y a aussi donc les classes pour les instruments d'ordonnance. Les professeurs, les élèves peuvent jouer tantôt dans un orchestre d'harmonie, un orchestre symphonique, une batterie fanfare, un big band, une banda, etc. Vous voyez, donc les barrières sont bien tombées. Et aujourd'hui, on voit chez les amateurs des musiciens professionnels qui dirigent des formations amateurs, qui sont solistes ou chefs dans de grands orchestres. Vous voyez, donc je crois que les mentalités ont changé. Et je dirais que les mains se sont tendues entre les formations musicales populaires et les structures. Alors,
de toute façon, c'est une formidable école de promotion musicale sociale. Voilà, hein, c'est vrai. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que ce type de formation, ce type d'orchestre, c'est quand même des lieux de solidarité, de mélange de classes sociales, de générations. L'orchestre d'harmonie ou la batterie fanfare, ça incarne ça encore. Hein.
Bien sûr.
C'est quand même des endroits où il y a des brassages qui sont très forts.
Comme l'a dit un jour Désiré Dondaine, qui est une figure emblématique de tout ce domaine des orchestres d'harmonie et batterie fanfare, il a dit il ne faut pas avoir le complexe du piston. Donc nos instruments d'ordonnance, il faut les assumer. Vous voyez, il faut les assumer et les valoriser. Et on les valorisera par la création. On ne les valorisera pas par l'imitation, par l'arrangement d'une chanson, etc.
Du symphonique, du sous-symphonique. Oui, voilà. Ça n'a aucun intérêt. C'est de développer.
Et en ce qui me concerne, moi, j'ai de très bons souvenirs des batteries fanfares lorsque j'étais petit, à Boulogne-Billancourt, parce que je passais tous les dimanches dans un endroit où ils répétaient le matin. Et c'est ma petite Madeleine, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé ce répertoire. Je voudrais vous remercier, Guy Coutançon, d'être venu l'évoquer en notre compagnie, Martine Zuber. Tous les détails sur les pièces, si vous voulez vous mettre à la trompette, au cornet à piston, au cor, etc., seront détaillés, tous les présentés sur le.
Je voulais juste remercier
sur la page d'accueil du
podcast. Didier Martin, ici, qui a enregistré les quelques petites pièces là. Avec ses gamins de son école en Auvergne.
Et que voilà, nous allons... Alors, Didier Martin, quelques mots tout de même. Voilà, Didier Martin est aussi un garçon qui a commencé la musique comme moi dans une petite batterie fanfare et qui actuellement travaille à l'école de musique de Cordon d'Auvergne, dirigée par Jean-Marie Sol, donc, et qui s'investit pleinement dans les fédérations puisqu'il est vice-président de la Confédération française des batteries fanfares. Il est plus particulièrement chargé de la commission musicale. Donc, avec l'aide de quelques conseillers techniques, c'est lui qui met en place tout le plan de formation musicale. Et il fait vraiment un gros travail, tant sur le plan national que sur sa région, l'Auvergne, où, je dirais, cette batterie fanfare de Cournon voilà, fait aussi école. Et c'est quelqu'un qui est très, très compétent tout le domaine pédagogique, vers les jeunes enfants, etc. Et voilà, donc il a un pied chez les professionnels et un pied chez les amateurs. Voilà,
ce sont ces pièces qui auront illustré donc notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup.
C'est
merci.
Nous.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Yves Riesel.